Espace 2. La vie côté culture. La vie côté culture.
Comment les animaux de la Bible nous aident-ils à donner un sens spirituel à notre vie d'être humain ? Raphaël Paquier s'intéresse à cette question en compagnie de Jean-François Froger, un exégète qui a rédigé il y a quelques années un ouvrage intitulé « Le bestiaire de la Bible ». Alors, pourquoi ici un serpent qui parle à Ève ? Pourquoi là un taureau sur l'autel du sacrifice ? Ou encore, pourquoi une colombe sur Jésus dans le Jourdain ? Un itinéraire animalier et spirituel dans une série réalisée cette semaine par Françoise Yanni.
À vue d'esprit. Fabien Unenberger.
Bonjour Raphaël Paquier.
Bonjour Fabien.
Alors votre invité est un savant, à la fois philosophe, mathématicien, exégète, il connaît l'hébreu biblique, le latin, tout l'intéresse.
Oui, vraiment, tout l'intéresse, on peut dire passionnément, oui, à le suivre à la découverte de ce bestiaire de la Bible qu'il a écrit avec Jean-Pierre Durand, un zoologue. Un zoologue parce qu'il importe pour lui de lire la réalité animale avant de l'interpréter symboliquement.
D'accord, alors ce sera le cas avec les animaux présentés aujourd'hui.
Oui, avec l'aigle par exemple et les animaux qui figurent les quatre évangélistes. C'est le cas aussi avec les chevaux de l'Apocalypse pour se centrer sur le témoignage de Jean le visionnaire, auteur du quatrième évangile.
Il faudrait comprendre pourquoi on a attribué des animaux aux quatre évangélistes. Puisque, alors Saint Jean, on lui donne l'aigle, à Saint Luc, le taureau, à Saint Marc, le lion, c'est bien connu, et à Saint Matthieu, une figure d'homme, c'est une tête d'homme, qu'on représente souvent comme un ange. Mais il faut conserver la corporéité de la chose. Alors, c'est la totalité de cette figure qui en explique chacun des termes. Parce que, donc on voit ces quatre évangélistes avec les quatre emblèmes animaux autour du Christ en gloire, en particulier sur le tympan de certaines cathédrales. Et évidemment, c'est une leçon en images pour nous montrer la réalité du Fils de l'homme. Autrement dit, qu'est-ce que le Christ ressuscité ? C'est comme, puisqu'il y a une analogie, un aigle, un taureau, un lion et une face d'homme. Vous voyez ? Alors, c'est ce que j'examine tout au début de ce livre sur le bestiaire de la Bible. C'est une figure clé qui nous fait comprendre que ce corps d'homme que nous voyons représenté, parce que c'est aussi une représentation, est bien le corps du Verbe, parce que ces quatre animaux ont... animaux, même la tête d'homme, être animé, parce que c'est à ce niveau-là que ça joue, ces quatre figures vont montrer, de façon analytique en quelque sorte, ce qu'est le Verbe incarné. Alors, évidemment, il faut une source, par exemple, de la parole en tant que parole germe, inséminant l'esprit, les semina verbi domini, qui vont être figurés évidemment par le taureau dont nous avons déjà parlé de Saint Luc. Alors pour Saint Jean, c'est bien l'acuité de la vision de Saint Jean qui est figurée par l'aigle, mais qui est une acuité du Christ, qu'il a transmise à Saint Jean. C'est autrement dit, dans l'humanité de Jésus, ce qui se reflète dans l'évangile de Jean et qui est très spécifique, que tout le monde a vu, on appelle Jean le théologien, c'est-à-dire celui qui a la science de Dieu, eh bien évidemment, cette science de Dieu qui est extrêmement contemplative, puisque comme dit Saint Jean justement au début de l'évangile, Dieu nul ne l'a jamais vu. Mais celui qui est dans le sein du Père, lui, il l'a expliqué, il l'a montré, exégésato en grec. Il en a fait l'exégèse, c'est-à-dire il l'a mis en évidence. Alors, donc, le premier exégète, d'après Jean, c'est le Verbe lui-même. c'est le Verbe incarné, qui est l'exégèse du Père, qui reste et demeure, évidemment, à jamais invisible. Même dans la vie éternelle, le Père reste invisible. La divinité se participe, elle ne se voit pas comme un spectacle, bien sûr. Autrement dit, on ne peut être qu'en Dieu. On a de connaissance de Dieu qu'en Dieu. Donc, tous ceux qui ne peuvent pas entrer en Dieu, en quelque sorte, n'ont pas la connaissance de Dieu et en sont exclus, ce qui est un grand malheur. Ici-bas, c'est se chercher dans cette vallée de l'ombre, comme on le dit dans les psaumes, et après, évidemment, ça serait la damnation. Alors, revenons à l'aigle. Cette figure est particulièrement adaptée à saint Jean parce que qu'est-ce que Jésus transmet spécifique à saint Jean? Eh bien, son aspect visionnaire. Et c'est pourquoi on va retrouver Jean, après la mort de Jésus, confié à Marie comme son fils. Mère, voici ton fils. C'est-à-dire que Jean va remplacer Jésus sous un certain aspect, en tant que maître spirituel et visionnaire. Alors, Jésus devait avoir des visions quand il se retirait sur la montagne pour prier. Eh bien, Jean, on le retrouve à Patmos, en exil, et là, il a une révélation. Les cieux s'ouvrent pour lui, ce qui est une figure de l'illumination intérieure. Donc, il entre dans l'intelligence de ces choses et d'une intelligence contemplative. Et c'est une intelligence, comme nous disions tout à l'heure, qui relève de la logique unaire, c'est-à-dire qui n'a qu'une seule valeur de vérité. C'est une espèce d'adhésion immédiate, antérieure à tout raisonnement. Et c'est bien ça, et comme ça, qu'on est en contact avec la divinité. Ou alors, on peut être dans la présence d'immanence de Dieu, mais on ne peut pas en avoir conscience. Donc nous sommes en présence de Dieu à chaque instant. Mais, pour nous, comme nous sommes saturés par les sens, et par nos raisonnements, nos pensées, nos sentiments, nos soucis, eh bien, nous n'avons plus conscience et nous vivons comme des somnambules en Dieu. Alors, l'éveil dont il s'agit dans la résurrection du Christ, c'est l'éveil à la présence divine de façon explicite. Ça, c'est la vie éternelle. Alors, cette vie éternelle, évidemment, n'est pas temporelle, donc elle est maintenant, hier et demain. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit du Christ, il est le même maintenant, hier et demain. Et il faut sortir du discours, de ce qu'on est en train de faire, pour entrer dans du non-discours, mais non pas dans un silence qui serait une espèce de mutisme face à la réalité, parce qu'on ne sait pas quoi dire, parce qu'on n'y comprend rien, mais c'est un silence d'au-delà de la parole. Un silence qui est la sommation, en quelque sorte, de toute la connaissance.
Qui est un peu de l'ordre de cette contemplation immobile, dans la lumière, tel l'aigle qui plane sur le monde.
Exactement, c'est la figure même de l'aigle dans sa sérénité céleste qui plane, qui cherche sa nourriture au niveau pratique, mais qui est la figure de ce qui est en face de la lumière et qui la supporte à de très hautes altitudes. Donc c'est évidemment une image pour nous et tous nous disons « Ah, ça vole haut !» Eh bien oui, alors souvent pour s'en moquer ou pour dire qu'on ne comprend pas, mais quelquefois c'est vrai, ça vole haut, parce qu'effectivement pour nous, tout se passe comme une ascension intellectuelle et spirituelle. Thank you.
Ça vole haut, y compris avec des images difficiles à digérer. Pour rester à Saint-Jean, parlons peut-être, et nous terminerons par là, par les chevaux de l'Apocalypse. Il y en a un qui est vert, Jean-François Froger. Terminons avec cette image de ce cheval, peut-être.
Oui, alors les chevaux vont faire la guerre. D'ailleurs, c'est un passage de l'Apocalypse où il y a du combat. Il y en a un qui arrive avec le glaive sur le cheval blanc. Et le cheval vert, d'abord, il est vert. Non pas verdâtre, comme disent la plupart des traducteurs. Alors, c'est là où je souligne la nécessité d'avoir une traduction extrêmement littérale des images. Pas du tout pour rester dans le littéralisme, mais pour avoir une base réelle de contemplation. Alors, les couleurs sont évidemment symboliques, là aussi. Mais on prend des couleurs réelles pour parler de choses moins visibles. Et le vert est immédiatement connu comme la couleur de la vie. Et donc, ce n'est pas du tout un cheval verdâtre en train de mourir. Le cheval, lui, au contraire, il est plein de vie. Et parfois, d'ailleurs, je me souviens avoir vu des représentations du corps de Jésus sur la croix, tout vert. Non pas pour dire qu'il est mort, mais que la vie va traverser la mort. Et c'est bien ce que signifie aussi le cheval vert de l'Apocalypse. Et il est chevauché par la mort, parce que la mort n'aurait strictement aucun pouvoir si elle n'était pas, en quelque sorte, un aspect de la vie. C'est un aspect de transformation et qui devient pénible pour nous à cause du péché originel, mais qui est une transmutation, comme on va le voir dans la mort de Jésus, qui passe d'un état charnel ordinaire, que nous connaissons bien, à l'état du corps glorieux, qui est un état subtil, mais qui est quand même un état corporel, et qui donc peut se rendre présent dans le monde. Le corps est pour le monde, et pour la communication à autrui. Et Jésus va utiliser sa corporéité actuelle pour se donner à participer, comme le fruit d'un sacrifice, comme les animaux qu'on mangeait après un sacrifice. Et donc, on va pouvoir manger le corps du Christ. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est ce qu'il y a de plus profond et de plus grand dans la nature humaine qui s'y exerce et qui, dans un rituel, passe justement de la réalité sensible, du pain, transformé en corps, à la réalité la plus subtile, qui est la réalité spirituelle et divine. Donc, Dieu se donne à communiquer aux êtres humains dans leur capacité de recevoir. Sinon, il n'y aurait aucune communication, puisque la nature divine et la nature humaine ne sont pas les mêmes, et par conséquent, il n'y aurait aucune communication possible. Il faut que Dieu se donne à travers la nature humaine, dans la nature humaine. Et c'est une des raisons de l'incarnation, bien sûr.
C'est le fil rouge de votre livre, Jean-François Froger, Le bestiaire de la Bible, qui nous permet de regarder de près dans tout le réalisme concret de l'animalité, oui, pour y comprendre ce qu'il y a d'intelligible et comme miroir de la vie humaine, mais aussi intelligible et révélé comme étant des images pour nous dire plus que cette réalité, pour nous dire l'objectif de toute vie.
Voilà. Et c'est une constante de l'écriture d'être signifiante. C'est, alors, un signe, je rappelle une chose extrêmement simple, c'est qu'un signe montre ce qu'il n'est pas. Quand on regarde une chose en tant que chose, c'est pas un signe. On voit un arbre, ben c'est un arbre. Mais l'arbre peut devenir un signe. Mais ça suppose une opération intellectuelle qui est de l'instituer comme signe. Eh bien, par exemple, quand on nous parle d'un jardin planté d'arbres pour le jardin d'Éden, évidemment que les arbres sont là en tant que signifiants. C'est pas pour nous faire une description botanique de je ne sais quel Éden imaginaire. Mais c'est pour nous dire, le jardin qui constitue l'homme est planté d'arbres, parce que l'arbre est signifiant. Alors il faut transformer l'arbre en signe, c'est-à-dire se servir de tout ce qu'il montre pour comprendre ce qu'il montre ailleurs, ce qu'il montre sensiblement pour comprendre ce qu'il montre intelligiblement. Alors l'arbre est une chose essentielle qui traverse toute la Bible aussi, évidemment, qui est le lieu des oiseaux, on verra dans les paraboles peut-être, et qui symbolise le symbolisme même, c'est-à-dire cette fonction essentielle de l'âme humaine qui est capable de comprendre, dans le fond, toute la création comme signe. Mais toutes les formes du monde qui nous sont données à voir, à expérimenter, sont signifiantes en deux degrés de la réalité à laquelle il s'agit de naître. Et c'est ça l'éveil que cherchent toutes les religions du monde. Mais cet éveil est proposé dans le christianisme jusqu'au bout, et d'une façon absolument splendide, sans nier justement la corporéité. Pourquoi le corps est si important? Et pourquoi? C'est qu'il est le lieu analogique de la connaissance. C'est par le corps qu'on connaît. Et les choses les plus divines, comme les sacrements, où la grâce divine se donne en acte, vont passer par des signes corporels pour le corps. Vous savez, quand on baptise un enfant, on le plonge dans l'eau. Mais c'est son corps qu'on plonge dans l'eau, c'est pas son âme. Et tous les sacrements s'adressent au corps. Pourquoi? Parce que le corps humain est le lieu d'un acte de connaissance et de reconnaissance. Connaissance du monde, de soi et de Dieu, et de reconnaissance, d'action de grâce. Et donc, toute la vie humaine consiste en cela, à connaître le monde, soi et Dieu, et à reconnaître que tout cela est un cadeau. Et donc, que nous sommes des enfants chéris de Dieu qui nous donnent à participer sa divinité, justement à travers les choses corporelles. D'où notre respect extrême et notre attention scientifique, rigoureuse, des formes du monde. Du moindre caillou est signifiant. Et pour finir sur cette note, Jésus, dans l'Apocalypse de Saint Jean, et c'est là où on voit que Jean a vu Jésus ressuscité, lui dit, et tout le monde le sait, je suis l'alpha et l'oméga. Donc le commencement et la fin, le premier et le dernier. Donc il résume la totalité. Donc Jésus dit, en tant qu'homme ressuscité, je suis la totalité du réel. C'est pas rien. Et si on se souvient que Saint Jean ne parlait pas grec mais araméen et hébreu, il connaissait bien ces deux langues, et que Jésus parlait ces langues-là aussi, et que c'est la langue de la révélation, donc il faut retraduire dans sa langue originale. Et on obtient une chose très extraordinaire. C'est que Alpha, c'est donc Aleph en hébreu. Ça se ressemble, parce que vous savez bien que l'alphabet grec vient directement de l'alphabet phénicien, et c'est le même que l'alphabet hébreu. Eh bien, l'oméga, par contre, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Et quelle est la dernière lettre de l'alphabet hébreu? C'est le Tav. Alors, je suis le Aleph et le Tav. Mais « et », ça se dit « Vav » en hébreu. Alors, je suis Aleph, V, Tav. Voilà, je le dis en hébreu. Donc, et en, j'épelle la chose, mais ça forme un mot. Ce mot, c'est le mot « hôte » et qui veut dire « signe ». Je suis le signe. Donc Jésus ressuscité nous dit que la corporéité glorieuse dont il est le support est le signe. Et c'est pourquoi on comprend quand il, dans Saint Jean, Jean rapporte cette parole de Jésus avant même la résurrection, qui me voit, voit le Père. Or, ça n'est pas vrai qu'en voyant le corps d'un homme, on voit Dieu. Mais c'est vrai dans la mesure où ce corps d'homme est la matrice même du corps ressuscité, qui est déjà en acte en Jésus, même si la dramaturgie historique n'est pas déroulée, Jésus, il est totalement Dieu à chaque instant. Donc, le corps ressuscité est comme latent dans le corps charnel de Jésus. Il va devenir patent. C'est Saint Augustin qui dit ça à propos de l'eau et du vin. Il dit « le vin était latent dans l'eau ». Il devient évident ensuite par le miracle. Eh bien, le miracle de la résurrection, c'est de rendre évident la nature même de la corporité humaine, qui est d'être support signe de la divinité. Et il se trouve qu'il ne peut nous être donné de participer à cela, justement en assimilant son corps. Quand nous mangeons son corps et buvons son sang, eh bien, notre corps est en quelque sorte naturalisé christique. Nous obtenons, disons, la nationalité de Jésus, si on peut dire, enfin, façon de parler, imagée, hein. C'est-à-dire nous sommes divinisés. Donc les prémices de la divinisation nous sont données dans l'Eucharistie, ce qui est une chose immense, il n'y a rien de plus beau, mais évidemment c'est un peu difficile d'accès, ça demande une longue initiation, mais la première initiation, ben, c'est de regarder le monde, regarder les pierres, regarder les arbres, regarder les animaux. Et Jésus nous fait faire attention constamment à toute la création, quand il nous parle des poissons, du serpent, comme nous en avons parlé, des taureaux, des aigles, et de combien d'autres animaux.
Jean-Vincent Frejet, nous poursuivrons demain cette lecture du grand livre de la création qui nous conduit en intelligence et aussi en contemplation vers le mystère de la vie, un mystère révélé curieusement, étonnamment par les animaux qui traversent, qui habitent ce livre saint des Écritures. Demain, nous découvrirons l'âne et le bœuf.
Le bestiaire de la Bible, on le rappelle, un parcours de théologie en suivant la lecture de toute la création et des animaux qui s'y trouvent, selon la démarche des auteurs. Donc, on le rappelle, Jean-François Frejet, notamment. Démarche qui se poursuit demain, votre compagnie, Raphaël.
Alors, demain, oui, au grand livre de cette création, avec deux animaux, l'âne magnifique, que l'on trouve dans le Nouveau Testament aux portes de Jérusalem, le jour où il porte Jésus.
L'entrée de Jésus à Jérusalem.
Exactement, hein. Le jour des rameaux. L'âne et le bœuf encore, chez le prophète Isaïe, ainsi que dans certains textes apocryphes. Deux animaux qui ont leur place, bien sûr, dans l'étable auprès du nouveau-né, l'enfant Dieu de Bethléem, mais cela grâce aux apocryphes.
D'accord. Merci beaucoup Raphaël Paqui. On va vous retrouver évidemment demain pour parler de ces différents animaux, en vous rappelant au passage le nom de cet ouvrage dont nous parlons cette semaine, Le Bestiaire de la Bible, paru aux éditions des Iris. Et puis tout de suite, un petit cadeau bonus avant de se quitter. Écoutez ce qui suit. Ti 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 Voilà ce petit cadeau au bonus dont je vous parlais tout à l'heure. Ça s'appelle Le Chant des Oiseaux. C'est une pièce de la Renaissance d'un auteur qui s'appelle Clément Jeannequin, fin 15e, début 16e siècle. Donc, Le Chant des Oiseaux. Notre site internet, pour avoir quelques informations supplémentaires sur cette série consacrée au bestiaire de la Bible, signé Raphaël Paquier, www.religion-rsr.ch. Dans quelques secondes, il sera 17h sur les ondes d'Espace 2. Après les informations, vous avez rendez-vous avec une proposition musicale, celle de Daner Entendu. Bonne suite d'après-midi à vous.
Espace 2. Espace 2. Notre adresse internet, espace2.ch.